Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une tragédie épouvantable aux États-Unis. Des tornades ont dévasté plusieurs États américains. Plus de 70 morts dans l'État du Kentucky. Nous serons avec Loïc Loury à New York dans un instant. Dans le sud-ouest, la décrue se poursuit après les inondations dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L'état de catastrophe naturelle sera déclenché dans ces deux départements jeudi prochain. La politique ce week-end, Yannick Jadot a tenu son premier meeting de campagne aujourd'hui dans l'Aisne. Le candidat écologiste veut donner à la France un président du climat. Dans ce journal également, les magistrats écrivent à Éric Dupond-Moretti pour fixer à 21h la fin des audiences au tribunal. Et nous irons en Catalogne au championnat du monde de handball féminin. La France affronte en ce moment la Serbie. La météo pour demain, nuages et grisailles, de faibles pluies encore dans le sud-ouest, frappées par les crues. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est une tragédie inimaginable, selon les termes de Joe Biden, le président américain. Des tornades en série ont dévasté la nuit dernière plusieurs États américains du centre-est et notamment le Kentucky et l'Illinois. Et les informations à la mi-journée aux États-Unis sont bouleversantes. Dans l'État du Kentucky, le bilan est très lourd. Plus de 70 morts, peut-être 100 personnes tuées. En direct de New York, on retrouve l'un de nos correspondants, Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Frédéric.
Les dégâts causés sont épouvantables et les victimes sont innombrables. La ville de Mayfield est particulièrement touchée.
Oui, absolument. Mayfield, 10 000 habitants, défigurés hier après 21h par un monstre filmé par quelques courageux. Une gigantesque tornade qui a tout ravagé sur son passage. Le lieutenant Patterson de la police du Kentucky, ici sur CNN, constatait ce matin les dégâts.
Nous voyons des choses que nous n'avions jamais vues. J'ai vu l'ouragan Katrina il y a des années et ce que j'observe aujourd'hui, je ne l'avais pas vu alors. Les dégâts sont indescriptibles, c'est tout le paysage qui a changé.
Voilà des piles de gravats, Frédéric, à peine quelques murs, encore debout des dizaines de morts. Une usine de fabrication de bougies en particulier a été réduite en poussière, faisant de nombreuses victimes. Le gouverneur Andrew Beshear a décrété dans la nuit l'état d'urgence.
C'est l'une des nuits les plus dures de l'histoire du Kentucky. Certaines zones ont été frappées si fort qu'il est difficile de l'exprimer avec des mots. Nous sommes là pour vous, nous vous aimons et nous prions pour vous.
Et au total, plusieurs dizaines de tornades ont touché au moins 5 États américains, plusieurs morts dans le Tennessee, une victime dans l'Arkansas, dans l'Illinois. Enfin, une centaine de personnes ont été prises au piège d'un entrepôt Amazon partiellement détruit. Au moins 2 d'entre elles sont mortes. Des employés qui y travaillaient, Frédéric, en horaire de nuit à l'approche des fêtes de Noël.
Loïc Loury, merci en direct de New York. Et le président américain Joe Biden assure sur Twitter être tenu au courant et travailler avec les gouverneurs concernés pour la recherche des survivants. Vivant. Pour mieux comprendre le désastre et les dégâts causés par ces tornades dévastatrices, vous pouvez vous rendre sur le site, sur notre site franceinter.fr pour voir les images et les vidéos de cette catastrophe. En France, dans le sud-ouest, ce sont les crues qui ont provoqué d'énormes dégâts. Ce soir, dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, la décrue se poursuit. Les opérations de nettoyage ont d'ailleurs pu commencer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu cet après-midi au Pays Basque et dans les Landes, à Peyrorade. Gérald Darmanin.
Nous pouvons considérer que les choses vont redevenir peu à peu à la normale. Il y a eu 400 personnes qui, dans ce département, par exemple, ont été impactées, ont déménagé, évidemment. Les alertes ont été faites dès hier et je remercie les communes et les pompiers, les gendarmes d'être fait proactifs, d'aller voir les personnes. Et nous allons convoquer jeudi prochain l'état de catastrophe naturelle avec la ministre de transition écologique pour que dès vendredi, les assureurs puissent faire leur rôle d'assureur et pouvoir accompagner les communes, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes qui ont été touchées, comme je l'ai vu à Bayonne, comme je le vois ici, par ces inondations.
Gérald Darmanin, propos recueilli par Victoria Coussa. La politique et la campagne présidentielle avec deux rendez-vous aujourd'hui à Paris et la Mutualité. Valérie Pécresse s'est adressée pour son premier grand discours de campagne au cadre du parti en promettant la victoire. Yannick Jadot, de son côté, a tenu son premier meeting de campagne à Lens, dans l'Aisne, où on retrouve en direct Laurence Perron. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Et Yannick Jadot a déclaré qu'il voulait donner à la France un président du climat contre les paniques identitaires.
Alors on nous avait prévenu, chez lui, à Lens, devant sa maman, assise au premier rang, Yannick Jadot allait fendre l'armure.
Et c'est là que mes parents m'ont transmis l'amour des arbres et des oiseaux. Le plaisir intense de voir passer une harpe de cerfs et de biches au fond de la forêt.
160 personnes assises sur des caisses en carton dans le gymnase municipal l'écoutent défendre son écologie.
L'écologie, ce n'est pas prendre une douche froide, une fois par mois, dans le noir.
L'éreinte, le président de la République, homme des lobbies aux ambitions mortes, dit-il, qui a permis une extrême droite à 30%.
Notre France, chers amis, ça n'est pas celle des anti-Dreyfusards, ça n'est pas celle des collabos et de l'OS. Cette France de la défaite, dont la devise est racisme, antisémitisme et révisionnisme.
Un discours très très long, en forme de catalogue, qui interroge de fait sur l'incarnation présidentielle à une centaine de jours du premier tour. Il répond à sa façon à la proposition d'Anne Hidalgo.
J'appelle aujourd'hui tous les progressistes et les humanistes à nous rejoindre.
Toutefois, Yannick Jadot ne ferme pas la porte à des discussions. Son entourage prépare une initiative dans les prochains jours.
Laurence Perron avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Merci à vous deux. L'épidémie de coronavirus maintenant en Europe. Le débat sur la vaccination obligatoire s'installe après la décision de l'Autriche, de la Grèce ou encore de la Pologne de recourir à cette mesure pour l'ensemble ou une partie de la population. La Suisse veut également imposer des restrictions supplémentaires aux non-vaccinés, une minorité mais qui pèse lourd dans la surcharge des hôpitaux. Et c'est la seule manière, selon Berne, de limiter l'engorgement des services de réanimation et d'éviter une nouvelle mise à l'arrêt de l'économie. Sur place à Genève, Jérémy Lanche.
Guéri ou vacciné, en allemand, geimpft oder genesen. C'est ce qu'on appelle la règle des 2G que pourrait appliquer très prochainement la Suisse. Concrètement, ça veut dire que seules les personnes qui ont acquis une immunité contre le Covid, soit par la maladie, soit par le vaccin, pourront avoir accès à l'intérieur des restaurants, des bars et des lieux de loisirs. L'autre option retenue par le gouvernement prévoit elle aussi l'instauration de la règle des 2G, mais avec la fermeture des restaurants, une situation qu'a déjà connue la Suisse l'an passé et que ne veut pas revivre le ministre de la Santé, Alain Berset.
Il y a une année, on était en train d'aller vers le chemin de tout fermer. Les restaurants fermés pendant des mois, portes closes. Les magasins fermés pendant des mois, tout fermé. Là, c'est complètement autre chose. On est en train, au contraire, de tout faire pour que tout puisse rester ouvert. Et on espère que ça marche, à certaines conditions, et bien d'avoir effectivement une certaine immunité.
Comme ses voisins, la Suisse connaît une explosion des cas de Covid. 289 personnes sont actuellement en soins intensifs. Elles pourraient être plus de 400 d'ici aux vacances, avec le risque de devoir à nouveau trier les patients. Une situation d'autant plus inquiétante que le variant Omicron semble être particulièrement présent en Suisse, avec près de 4% des cas séquencés ces derniers jours. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et puis j'ajoute qu'à Vienne, en Autriche, cet après-midi, 44 000 personnes ont manifesté contre la vaccination obligatoire. Plus d'audience après 21h et dans un contexte de mal-être croissant au sein de la magistrature, les deux principaux syndicats de magistrats demandent au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, de prendre une circulaire fixant à 21h l'horaire maximum de fin des audiences. En septembre dernier, l'Union syndicale des magistrats avait réalisé une enquête auprès d'une cinquantaine de juridictions et avait conclu que les audiences nocturnes n'étaient pas des exceptions, loin de là. Ludovic Fria, secrétaire général de l'USM, avec Jean-Philippe Denion.
Plus du quart des juridictions connaissaient ce phénomène d'audience tardive, principalement, on va dire, dans les grandes juridictions de la couronne parisienne et des grandes villes. 37-38% des audiences se terminaient après 21h, mais on pouvait avoir des pics qui montaient jusqu'à 70-78% des audiences. Principalement les audiences de comparution immédiate, c'est-à-dire d'urgence pénale, mais pas que. Ce phénomène se retrouve également dans les tribunaux de province, dans de moindres proportions, mais dans des proportions quand même importantes, hein, puisqu'on est, on va dire, entre 20 et 40, voire 45% des audiences en province qui sont des audiences tardives. Ça fait des années que les magistrats, les greffiers, également tous les autres partenaires judiciaires, s'évertuent à faire tourner une machine avec des moyens qui sont complètement sous-dimensionnés par rapport aux besoins.
Ludovic Fria, secrétaire général de l'USM, avec Jean-Philippe Denion. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et ma vie connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Et il y a quelques jours de Noël, vous avez pensé qu'il était temps de faire une liste des livres à mettre sous le sapin, mais vous proposez de le faire en fonction de nos émotions.
Eh bien, si vous allez sur le site Love for Livre, on vous conseillera, par exemple, La vie heureuse de Sénèque, ou bien La carte postale d'Anne Berest, ou encore S'adapter de Clara Dupont-Monod. Mais ces conseils ont été classés par émotion. Sénèque pour la joie, Anne Berest pour la tristesse ou Dupont-Mono pour la surprise. Ce n'est pas une invitation à lire en ligne ou sur écran, mais lorsque vous arrivez sur le site Love for Livre, vous pouvez indiquer de quelle humeur vous êtes et dans quel type de sensation vous souhaitez naviguer. Mais ça va plus loin encore. Love for Livre propose aussi des ateliers de bibliothérapie dans le cadre d'un programme européen. Écoutez Céline Masse, cofondatrice de Love for Livre.
Au final, le roman ne donne pas de leçons, il ne donne pas de réponses parfaites, mais il ouvre des perspectives, il ouvre des fenêtres et des portes dans la tête des gens, c'est ce que je dis souvent. Et à minima, ça donne du bien-être, on a des évaluations, hein, du bien-être et l'envie d'y revenir. Après, pour que ce soit véritablement très efficace, l'idée c'est d'en refaire et d'avoir un vrai programme, un vrai parcours de bibliothérapie.
Alors Christine, comment la lecture agit-elle sur notre état finalement ?
Love for Livre s'appuie sur des études et sur ses résultats d'atelier. Lire favorise à minima l'empathie et la concentration. L'idée, c'est de répondre à une demande de mieux-être, de confiance en soi, d'énergie, par le roman. Et voilà ce que disent les personnes qui participent aux ateliers.
Elles disent « je ne savais pas trop pourquoi je venais parce que j'étais intriguée, mais au final j'en ressors enchantée ». Donc c'est une vraie découverte aussi de cette approche. Elles disent que, grosso modo, la lecture immersive, ce qu'on appelle la lecture immersive, c'est-à-dire se concentrer sur un texte, donner du temps à un texte versus aller sur un réseau social, passer son temps à changer d'activité, ça fait du bien. Ça génère de la sérotonine, qui est l'hormone de la plénitude. Ça permet de se calmer, de prendre du recul et tout simplement de mieux vivre.
Lire renforcerait nos capacités mentales et réduirait le stress de 68%. Lire régulièrement aiderait même à réduire la détérioration cognitive. Alors voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Et si vous voulez tout savoir sur la bibliothérapie et découvrir le portrait de la femme qu'il a inventé, son portrait de Sadie Peterson de l'année à retrouver sur franceinter.fr. Ma vie connectée, Christine Siméon. Comme promis, on va en Espagne, en Catalogne, à Granollers, au championnat du monde de handball féminin. Les Bleus, championnes olympiques, affrontent en ce moment la Serbie. Jusqu'ici, tout allait plutôt bien. Les Françaises étaient invaincues. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Frédéric.
La France peut se qualifier dès ce soir pour les quarts, mais le match est très serré.
Oui, effectivement, contre la Serbie, 17 partout. Nous sommes en deuxième mi-temps, il reste moins de 10 minutes. Les Françaises, qui étaient menées de 3 buts à la pause, 12 à 9, se sont réveillées au début de la deuxième période en infligeant un cinglant 4 buts à 0 aux joueuses serbes. Mais le match est toujours très très indécis. Les Françaises étaient longtemps menées de 2 buts. Elles viennent de recoller à 17 partout, notamment grâce à l'une des joueuses prépondérantes depuis le début de ce mondial. C'est la gardienne Cléopâtre Darleux qui a sorti quelques ballons. Là, elle ne peut rien sur le 18e but serbe. Mais les Françaises vont essayer quand même de gagner coûte que coûte ce match, parce qu'on rappelle l'enjeu. Si elles battent les Serbes aujourd'hui, elles auront déjà leur ticket en quart de finale avant même d'affronter les Russes lundi pour le dernier match du deuxième tour. Dans le cas contraire, il faudra patienter. En tout cas, il n'y aura pas de casse ce soir, mais pour la confiance, pour cette équipe qui a évolué tel un rouleau compresseur depuis le début de la compétition, ce serait bien de battre les Serbes. Pour l'instant, les Françaises sont menées d'un but, 18-17 à moins de 9 minutes de la fin du match.
Voilà, 18-17 pour la Serbie à 8 minutes de la fin du match. Merci Jean-Pierre Blimeau, championnat du monde de handball féminin en Catalogne, à Granollers. Le temps pour demain.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Dans le quart sud-ouest, les pluies faiblissent, mais comme prévu, la décrue des cours d'eau est très lente. Plus au nord, la perturbation de faible activité arrivée par l'océan va, au fil de la soirée et de la nuit, gagner le nord de la Seine, puis le Grand Est. Mais demain, on ne parlera plus de pluie, mais seulement de crachins par intermittence, sous une grisaille souvent très tenace, qui va englober 80% du territoire. En fait, seuls les Pyrénées, les Alpes et le pourtour méditerranéen vont sortir du lot avec une ambiance ensoleillée la majeure partie de la journée et on notera la baisse du vent près de la Méditerranée. En fin de nuit, avec 0 moins 2 degrés sur un bon quart nord-est, il faudra se méfier des chaussées glissantes. Les maximales atteindront généralement 9 à 12 degrés jusqu'à 16 sur les régions méditerranéennes, mais parfois à peine 4 à 6 degrés du Grand Est à Rhône-Alpes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.